BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est le patron de Safran, le directeur général Olivier Andriès. Bonsoir Olivier Andriès.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. J'ai plein de questions à vous poser. Bien sûr, on reviendra sur votre journée investisseur. C'était juste avant le week-end. Un peu violent en bourse, on a trouvé que votre plan de vol était très timide. Vous direz comment peut-être le rebooster. Et puis avec vous, on parlera bien sûr de ce nouveau fonds de défense européenne. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou c'est le énième? Mais surtout, comment faire pour que l'Europe achète plutôt européen, voire français, que plutôt américain. Et puis, des questions évidemment sur Safran. Vos relations sont-elles enfin apaisées avec Guillaume Faury de chez Airbus? Mais d'abord, une question, je ne sais pas si vous avez lu l'interview du président du MEDEF, Patrick Martin, qui parle de récession à propos de la France. En fait, le titre est très en récession, il dit en légère récession dans ses propos. Est-ce que vous le ressentez, après tout, Safran, vous êtes quand même un des plus grands groupes français?
Alors, je ne le ressens pas encore. Ceci étant dit, Safran est un groupe qui est exposé aux marchés internationaux,
oui, bien sûr. Fait.
Et donc, notre marché, il est international,
oui.
À la fois sur l'aéronautique, mais aussi sur la défense. Donc ce qui se passe en France, on le relativise, si vous voulez, en termes de santé économique.
Oui, enfin, sauf que vous avez quand même 50 000 personnes en France.
Oui, on y reviendra, Mais notre marché, il n'est pas de
manière
prédominante.
Non, mais donc, pour l'instant, c'est important.
Non, on ne le voit pas.
Parce que vous ne le voyez pas. Ben voilà, vous ne voyez pas de récession.
On ne le voit pas.
Ce climat politique, d'abord, j'imagine que vous vous réjouissez du fait que le gouvernement de Michel Barnier soit tombé, parce que, du coup, il n'y a plus de budget 2025, enfin, made in Michel Barnier, si j'ose dire. Il n'y a plus de votre taxe, les surtaxes pour les grandes entreprises.
Ça nous sommes un acteur économique. On n'a pas à se réjouir de tel ou tel
événement politique. Mais le résultat, ça fait quoi? Ça fait plus 500 millions dans vos caisses?
On verra ce qui arrivera. On verra ce qui arrivera. Alors, c'est vrai que le projet de loi tel qu'il était prévu, qui prévoyait donc d'augmenter les impôts pour les sociétés telles que le groupe Safran, ça avait un impact d'environ 500 millions pour nous.
Oui.
Bon, on verra ce qui se passera avec la nouvelle loi. On reste prudent parce que
ce climat,
les comptes publics sont ce qu'ils sont.
Ce climat politique instable, ça a des répercussions déjà sur vos commandes ou pas ?
Ça n'a pas de répercussions sur nos commandes, en réalité, qui sont mondiales. Ceci étant dit, une situation politique instable, ce n'est pas une bonne chose pour les acteurs économiques, évidemment.
Oui, mais en même temps, là, on ne sait pas très bien ce qui va se passer sur les crédits pour le ministère de la Défense, on ne sait pas très bien ce qui va se passer pour la loi de programmation militaire. Ça fait beaucoup d'incertitudes pour quelqu'un qui, grosso modo, vous avez 20% de votre chiffre d'affaires qui est dans le militaire.
Alors, on a 20% de notre chiffre d'affaires dans le militaire. Une partie de ce chiffre d'affaires se fait à l'export, une partie se fait en France. Alors, c'est vrai que si la loi spéciale est votée, elle reproduira en fait le budget 2024, alors que le budget 2025, tel qu'il était prévu auparavant, prévoyait une augmentation des dépenses dans le domaine de la défense. Donc il y aura une pression qui va s'exercer sur le ministère des Armées, et donc un impact sur les commandes en France. C'est
donc sur vous.
Donc potentiellement sur nous.
Oui.
Alors, à quelle proportion? Quels seront les arbitrages que le ministère des Armées va faire ou pas? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans la position des responsables du ministère, mais il pourrait y avoir un impact globalement, effectivement, en France sur l'industrie de défense.
Tiens, juste une question sur le Rafale, parce qu'on va rappeler que vous faites les moteurs du Rafale. Vous avez vu Éric Trappier, qui est le patron du Rafale, qui dit que la production va monter en cadence 3, ça veut dire 3 Rafales par mois. Donc pour vous, ça fait 6 moteurs, si je sais encore compter. Vous pouvez suivre?
Oui.
Oui.
Et c'est une très bonne nouvelle. On est engagé dans une dynamique qui est très forte sur le Rafale, avec déjà plus de 500 avions qui ont été commandés à date. Donc ça fait plus de 1000 moteurs pour nous. Et effectivement, on est tout à fait prêt à monter à cadence 3, voire si plus tard la dynamique continue, pourquoi pas cadence 4 par mois.
D'accord.
4 avions, donc ça veut dire 8 moteurs pour nous.
Et donc vous pouvez, vous nous dites là ce soir, moi je peux suivre et on est prêt. D'accord.
Bien sûr qu'on est prêt.
Bonne nouvelle en tous les cas pour Dassault. Ce nouveau fonds pour la défense européenne, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, si vous avez eu le temps de voir la déclaration du nouveau commissaire européen à la défense, Andrius Kubilius, qui souhaite un big bang dans les dépenses militaires de l'Union européenne pour faire face aux menaces. Il dit que l'Europe doit trouver les moyens d'ici fin 2025 de financer des centaines de milliards d'euros dans la défense. Vous applaudissez
alors,
ou vous restez sceptique?
La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une prise de conscience en Europe sur la nécessité de se défendre et de s'armer face au contexte géopolitique que vous évoquiez tout à l'heure, et notamment l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, en fait, que l'Europe prenne conscience de l'importance, effectivement, d'avoir des budgets de défense. Aujourd'hui, quand on regarde au niveau européen, on est un peu moins de 2% du PIB qui est consacré aux dépenses de défense. Certains pays vont beaucoup plus loin, comme la Pologne, par exemple.
Oui, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais.
C'est un, comme on dit, un wake-up call, c'est un réveil, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, l'autre réalité, c'est qu'aujourd'hui, 75% des dépenses réalisées par les pays européens dans le domaine de la défense sont réalisées pour acheter des équipements non européens.
Américains, quoi.
Essentiellement américains. Mmh. Et donc, la question, c'est s'il y a effectivement des budgets supplémentaires et des, comme vous dites, des centaines de milliards, puisque c'est effectivement ce à quoi pense la Commission européenne, est-ce que ça sera ouvert à tout vent, et notamment aux équipements étrangers et donc américains, ou est-ce que ça sera réservé aux équipements européens? Évidemment, côté français, on plaide pour que ces budgets soient consacrés essentiellement à l'achat d'équipements européens. Parce que c'est vraiment l'industrie de la défense européenne qu'il faut construire.
Et vous demandez quoi? Vous demandez un quota? Qu'est-ce que vous demandez, vous, Olivier Andriès? Vous dirigez un des plus grands groupes
On de demande défense. À ce que, simplement, les bénéficiaires de ces budgets européens qui seraient mis en place, ce fameux fonds, ce soient des industries européennes qui produisent en Europe.
Oui, avec des commandes européennes.
Avec des commandes européennes, oui. Et pas, donc, encore une fois, des achats d'équipements à tout vent.
Vous y croyez?
C'est pas gagné.
Oui, je vois votre sourire pour ceux qui ne regardent pas à la télévision.
C'est pas
je
gagné.
Traduis, petit sourire, voilà, pas ironique, pas mais enfin un peu.
C'est une position qui est française. Mmh. Principalement, elle n'est pas partagée par d'autres pays en Europe.
Oui, notamment les Allemands, pour ne pas les citer.
Elle n'est pas partagée par d'autres pays en Europe. Et effectivement, ce n'est pas du tout évident qu'on puisse effectivement avoir une majorité sur ce débat-là.
Il y a un autre débat. Alors, non, juste un point là-dessus. Parce que ce fameux avion de combat, le SCAF, qui est une espèce de... Oui, enfin, c'est un projet. Il devait avoir un grand sommet, ce mois-ci, je crois, du reste, entre la France, l'Allemagne et l'Espagne. Et visiblement, c'est repoussé au calendrier grec. Ça serait repoussé au mois de mars prochain. Le SCAF, c'est pas pour tout de suite, hein.
Oh ben de toute façon, l'avion de combat futur, c'est un projet au long cours, c'est un projet de développement technologique pour l'instant.
Mais est-ce que ça avance?
Avec un horizon qui est aux alentours de 2040. Donc c'est un projet qui est quand même assez long. Aujourd'hui, les équipes travaillent. On a des centaines de personnes qui travaillent sur ce projet. Nous, quand je dis nous, c'est l'ensemble de l'industrie française, allemande et espagnole, sur une phase qui va normalement prendre fin au printemps prochain. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on enclenche, est-ce que les pouvoirs politiques en France, en Allemagne et en Espagne enclenchent la phase suivante au printemps prochain?
Oui, ça devait être ce mois-ci.
C'est ça la question. Donc c'est ce débat qui doit avoir lieu.
Et vous, visiblement, vous n'en avez pas entendu parler là, donc c'est pas enclenché ce mois-ci.
Cette phase suivante, à date où on parle, elle n'est pas encore enclenchée.
Oui. Voilà. Et pourquoi est-ce que ça coince?
Ça doit s'enclencher dans les mois qui viennent.
Oui. Mais c'est quoi? C'est toujours les relations difficiles
entre... C'est le calendrier politique, et notamment le fait que l'Allemagne va rentrer dans une période d'élection. Donc je crois que c'est ça le sujet, c'est tout simplement ça.
Oui, il y aura pas encore en février, donc effectivement pas forcément de décision. Avant de parler de Safran, mais ça fera le lien, parce qu'on sait que vous devez choisir justement dans ce premier semestre 2025 le lieu d'implantation de votre quatrième usine de freins à carbone. Une question, est-ce que le Made in France, pour les industriels, est-ce que le Made in France, est-ce que c'est encore possible? Ou est-ce que quelque part, c'est une illusion ou un rêve de politique?
Alors la réponse est oui, c'est encore possible. La meilleure preuve, c'est qu'on a pris en début d'année la décision d'investir en France dans une nouvelle fonderie d'aubes de turbines. Ce sont des pièces critiques du moteur. Et on a décidé d'investir à Rennes. Donc c'est un investissement de plusieurs centaines de millions d'euros que l'on fera à Rennes et qui va au total représenter environ 500 emplois. Donc vous voyez, c'est possible. On peut tout à fait, effectivement, encore aujourd'hui, prendre des décisions d'investissement en France. Maintenant, vous me parlez de la quatrième usine de freins carbone. Alors c'est vrai qu'on est leader mondial dans le domaine des freins carbone. On a aujourd'hui 3 usines dans le monde. Une en France, l'usine historique de Villeurbanne, une aux États-Unis et une en Malaisie, en Asie. Et on doit effectivement, on a besoin pour répondre à la demande du marché de maintenant prendre la décision de créer une quatrième usine carbone. Mmh. Là, la question, c'est l'énergie et le coût de l'énergie, parce que l'énergie représente 40% du coût de fabrication des freins carbone. Et donc, ce qui va conditionner le choix de la localisation, ce sera le prix de l'énergie. Ce qu'on souhaite, c'est tout ça, ce sont des critères très simples. On souhaite un prix de l'électricité compétitif. On souhaite de l'électricité décarbonée et avec une électricité, une puissance délivrée qui soit stable, hydraulique ou nucléaire. Et enfin, on veut avoir une visibilité sur les prix pendant une période de 10 ans. Pourquoi ? Parce que ce qui s'est passé en Europe dans la période entre 2019 et 2023, c'est une très très forte volatilité des prix de l'électricité. Je vous rappelle qu'entre 2023 et 2019, l'électricité, le prix de l'électricité a été multiplié par 5. Ouais. Et donc c'est contre cette volatilité qu'on souhaite se protéger. Donc trois critères très simples, avec un choix qui va s'orienter soit sur la France, soit sur l'Amérique du Nord.
Est-ce que c'est lié au fait que vous puissiez signer un fameux accord, ce fameux accord avec EDF qui vous engage ?
C'est la question de l'accord avec EDF qui va être clé, parce que la clé, encore une fois...
C'est ça, la clé de l'installation de votre usine, c'est l'accord ou pas avec EDF. Et là, vous en êtes où ?
Sachant qu'aujourd'hui, on va prendre la décision au premier semestre.
Non, mais des discussions avec EDF.
On a engagé des discussions avec EDF. On n'a pas encore.
On sait qu'elles sont très difficiles. Hein. On en parle souvent ici.
Évidemment. Ouais. Donc, on se reverra en début d'année, à mon niveau et à celui de Luc Rémont. Et c'est à ce moment-là qu'on prendra la décision de localisation, sachant qu'on a déjà des offres très compétitives au Canada et dans le nord-ouest des États-Unis.
Dans l'Oregon. Parce que là, on voit tous les chiffres le montrent. Là, c'est la ruée vers l'ouest. Hein, en fait, on voit bien qu'il y a un effet Trump absolument gigantesque, mais qui existait déjà un peu avant avec l'IRA, qui attire beaucoup d'entreprises, et notamment beaucoup d'industriels européens et français. Et vous ?
Alors, c'est pas lié à l'élection de Monsieur Trump.
Non, ce que je dis, c'est l'IRA avant.
C'est tout simplement lié à la comparaison du prix de l'énergie en Europe versus les États-Unis, où effectivement on a une offre d'énergie qui peut être décarbonée, qui est compétitive et avec une très bonne visibilité sur une période de 5 à 10 ans.
La probabilité que ça soit en France, c'est quoi ? C'est 50-50 ?
Oh, je vais pas vous donner de chiffres. Mais
on n'est pas forcément perdant.
Pas vous donner de chiffres.
Non.
Voilà.
Vous réfléchissez vraiment, votre décision est prise.
Il y a trois options. D'accord. Les trois options sont sur la table.
Et ça dépend
de
monsieur.
Encore une fois, c'est vraiment... l'électricité qui fera la différence. Donc la ruée vers l'ouest, c'est tout simplement, si vous voulez, sur des enjeux où le prix de l'énergie compte énormément, effectivement, aujourd'hui, l'Amérique du Nord a un avantage par rapport à l'Europe. C'est indéniable.
Ouais. Et tous les industriels nous le disent. Ce qui est quand même paradoxal lorsqu'on voit toute l'énergie nucléaire qu'on a. Vous avez présenté, vous avez votre journée investisseur, comme on dit, jeudi. Et alors là, vous avez été un coup de tabac en bourse, parce que visiblement, pourtant, vous avez des belles perspectives jusqu'en 2028. Mais alors, ils vous ont trouvé d'une prudence, beaucoup trop prudent, Olivier Andriès. C'est votre nature, on vous connaît. Mais est-ce que vous n'avez pas été trop prudent aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour rattraper le coup?
Alors, il faut prendre un pas de recul, si vous voulez bien,
pas trop loin, mais on
peut. Ce qui s'est passé dans cette journée, parce que d'abord, il y avait une forte attente et le cours de bourse avait fortement augmenté le mois qui a précédé notre journée investisseur. Et donc, à l'issue de la journée, on est revenu au cours qui était le nôtre au 1er novembre 2024.
Ouais. Ce cours, quand on voit l'évolution de votre cours, pour ceux qui le regardent...
Ce cours a augmenté de plus de 30% depuis le début de l'année, ce qui nous met sur le podium du CAC 40 en termes d'augmentation du cours de bourse par rapport au début de l'année. Alors effectivement...
Qu'est-ce que vous pouvez dire là ce soir pour rassurer les gens, pour les investisseurs, pour vous dire, mais attendez, croyez dans le safran.
Nous sommes sur des marchés qui croissent plus vite que le PIB mondial. L'aéronautique civile a un taux de croissance, tel qu'on le voit sur les 20 prochaines années, de 3,7% par an. Et donc, on a une visibilité sur l'aéronautique civile qui est absolument exceptionnel, avec 34 500 avions qui seront commandés dans les 20 années qui viennent, selon nos prévisions. Et dans le domaine de la défense, il y a effectivement, compte tenu de la situation géopolitique mondiale, il y a effectivement une augmentation des dépenses de défense aussi.
Oui.
Donc on est situé sur des marchés qui sont en croissance, en réalité, et avec de belles perspectives, puisque nous avons nous-mêmes indiqué que notre prévision, c'était une augmentation du chiffre d'affaires d'environ 10% par an sur les prochaines années, avec une augmentation du résultat, de la profitabilité qui est encore supérieure.
Alors pourquoi on ne vous a pas compris ?
Parce que les attentes des analystes étaient encore plus fortes.
Ouais. Et là, vous pouvez
c'est ça la raison.
Vous voulez pas les corriger un peu ?
Les attentes étaient encore plus fortes.
Bon, d'accord,
on ne va pas changer nos prévisions par rapport à ce que nous avons annoncé en semaine dernière.
Est-ce que les relations avec l'un de vos principaux clients, en l'occurrence Airbus et son président Guillaume Faury, directeur général, est-ce qu'elles se sont apaisées ? Parce que très souvent, Guillaume Faury, ici même, disait, mais attendez, on a un problème de cadence, et derrière, ça ne suit pas, notamment les moteurs, notamment donc Safran, puisque vous êtes le principal, avec votre filiale, vous êtes votre moteur LEAP, le principal fournisseur des Airbus. Ils disent, ben non, mais Safran, c'est simple, ils préfèrent en fait faire de l'entretien des avions, parce que ça lui rapporte plus d'argent que de nous fournir des moteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est moins le cas ?
Alors, la réalité, c'est qu'on a deux clients. On a les clients avionneurs, qui effectivement ont des ambitions de monter en cadence et qu'il nous faut suivre. Et puis on a des clients compagnies aériennes, qui doivent faire voler leurs avions et qui ont besoin de moteurs pour faire voler leurs avions. Donc on a ces deux clients. Et donc effectivement, on a un marché de livraison d'équipements neufs aux avionneurs et on a un marché de maintenance parce que les compagnies aériennes sont en demande de maintenance. Ce sont deux marchés qui sont très différents.
Ouais. Mais il y en a qui vous rapportent plus, non ? La maintenance,
la réalité, c'est que cette année, effectivement, on a été amené, parce qu'on a été confronté à des goulets d'étranglement sur certaines pièces, on a été amené à revoir à la baisse nos livraisons de moteurs neufs. Donc effectivement, ça a été un peu juste, mais ces dernières semaines, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, on a été amené à prioriser un peu Airbus par rapport, je dirais, aux besoins des compagnies aériennes, justement pour soutenir la capacité d'Airbus à livrer des avions qu'ils ont besoin de livrer d'ici la fin de l'année.
Ça sera, in fine, ça fera combien de moteurs à la fin de l'année ?
Nous avons prédit que l'on livrerait en fin d'année moins 10% de moteurs par rapport à ce qu'on a livré l'an passé. Donc c'est effectivement un retrait parce qu'on a été confronté à une difficulté sur des pièces spécifiques du moteur.
Un mot très 30 secondes sur Ariane Group. Donc là, il y a le lancement. Oui, parce que vous êtes co-actionnaire, hein, on va le rappeler. Le lancement de Vega C donc, a été réussi après celui d'Ariane 7. Donc ça y est, maintenant Ariane Group a deux lanceurs. Mais en même temps, de l'autre côté, il y a Elon Musk avec SpaceX qui fait exploser tout. Et puis, le nouveau administrateur de la NASA est aussi un des meilleurs copains d'Elon Musk, du reste, qui s'appelle Jared Isaacman. Il a 41 ans, il va faire aussi exploser tout. Ariane Group, avec toutes les lenteurs, peut-être de l'Union européenne, peut-être des actionnaires, est-ce que vous ne dites pas il faut tout balayer pour essayer de suivre ?
Alors écoutez, d'abord, il y a deux très bonnes nouvelles cette année. Le lancement réussi premier vol d'Ariane 6, vous l'avez dit, avec beaucoup de retours positifs des opérateurs de satellites et de constellations, et puis le lancement de Vega C, qui a eu lieu donc semaine dernière. En fait, le marché a besoin d'une concurrence. Donc le marché est très content qu'il y ait un Ariane 6 qui puisse faire concurrence à SpaceX et que SpaceX ne soit pas en situation de monopole. Je rappelle d'ailleurs que l'un des plus beaux contrats qui a été signé par Ariane Group au sujet pour Ariane 6, c'est avec M. Bezos sur la constellation Kuiper qui nous a commandé 18 lancements.
D'accord.
Voilà, donc il y a une dynamique qui est repartie avec ces lancements qui ont été réussis. Il y a maintenant une montée en cadence qui est à réussir, mais aujourd'hui, le marché, la demande est très forte.